Radio Foot International.
Olivier Prom.
Bonjour, bonsoir, bienvenue à toutes et à tous dans Radio Foot International. C'est un mardi de mars qui voit les championnats délaissés et les sélections se rassembler. La fenêtre internationale s'est ouverte hier. Les internationaux ont rejoint leur sélection pour une dizaine de jours. La course à la Coupe du Monde 2026 va battre son plein jusqu'à mercredi prochain. Au moins, avant d'en parler, en Afrique et en Amérique du Sud surtout, il nous reste un dernier championnat à traiter. Enfin, le week-end dernier, il y avait en gros deux matchs à regarder. Hein. On va tous être d'accord. La finale de la Coupe de la Ligue anglaise, Liverpool-Newcastle. Hugo Moissonnier vous en a parlé hier. Et c'était quoi l'autre ?
Atlético Madrid-Barça.
Bah oui,
moi, je crois qu'il y en avait surtout un à regarder plus que deux.
De l'autre côté des Pyrénées, tout à fait. Où là aussi, comme Liverpool en Angleterre, une équipe a perdu très gros en quelques jours. Vous y êtes toujours, Étienne Moati ?
Je suis ça parfaitement, évidemment. Mais voilà. Le Barça survole la Liga, survole l'Europe.
Oh là là, c'est surtout l'Atlético qui ne survole plus grand-chose, en tout cas plus la Ligue des Champions, et de moins en moins la Liga, les Colchoneros qui passent à côté en 20 minutes, hein, de 2-0 à 2-4 à partir de la 70e minute, pour être précis. Après la Ligue des Champions, c'est le titre en Liga qui s'échappe a priori, au contraire du Barça, plus que jamais. Ah oui, je vais dans votre sens, bien sûr, plus que jamais lancé pour redevenir mettre chez lui. C'est peut-être parce que j'ai déjeuné avec le réfé que je suis influencé comme ça sur Barcelone. On le salue au passage, il est à l'écoute. Nous en profiterons pour évoquer le troisième larron qu'il ne faut jamais enterrer, on le sait, le Real d'Mbappé, fort avec les faibles et plutôt faible avec les forts ces derniers temps. Ça suscitera peut-être le débat. Place donc ensuite à la course au mondial américain. Hop, 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 le truc là, c'est l'hymne américain, bien sûr. Ça nous fait penser aussi à des trucs moins sympas ou plus orange, on va dire, en ce moment. Bon, bref, parlons Coupe du Monde plutôt. Ça va jouer en Afrique dès demain, mercredi, jusqu'à mardi prochain. 50 matchs, les amis. Les 5e et 6e journées de qualification. Dans 8 jours, on aura passé la mi-parcours. Pour rappel, 9 groupes, 9 vainqueurs qualifiés, plus un barragiste. Passionnant ou carrément trop long, Hervé Penaud, bonjour.
Passionnant, bon, on va se régaler. Moi, j'attendais ça avec impatience. J'attendais ces deux semaines.
C'est long, c'est interminable, hein, quand même. Un peu.
Ah, interminable. Il faut bien jouer des matchs. Vous voulez quoi, qualifier les équipes comme ça à la pièce ? Non, il faut des matchs.
Vous voulez dire comme en Amérique du Sud ? On en parlera. Quasiment aussi. Mondial en vue en Amérique du Sud. Bon, là-bas, comme d'hab, hein, ils sont 10 sur la ligne de départ. Avant, ils étaient 5, voire 6 à se qualifier. Bah, maintenant, c'est encore mieux. Ils sont 6, voire 7 en général à mondialiser. Pas vraiment de suspense. On se raccroche à ce qu'on peut. Tiens, les retrouvailles Messi-Neymar, par exemple ? Ben non. Argentine, Brésil, ce sera sans eux, blessés. Enfin, pour le Ney, la blessure est toujours récurrente chaque année. Ça s'appelle le carnaval. C'est un truc que les médecins ont du mal à
c'est l'anniversaire de sa sœur aussi.
Ben voilà, Patrick Juillard, j'avais prévu de vous demander ce que vous en pensiez. Vous êtes là,
voilà,
Patrick
je vous
Juillard.
Ai dit ce que j'en pensais. Bonjour à toutes et à tous.
Sur RFI tous les deux jours à peu près. En moyenne.
Je vais dormir ici.
On va vous prendre une chambre.
Voilà. L'anniversaire de sa sœur, il utilise surtout cette excuse pour les clubs. Pour la sélection, normalement, il y va quand même avec
surpris.
Là, je suis un peu surpris. Bien sûr, c'était pour se moquer.
Pourquoi
on
n'a
pas le temps de niaiser. Encore une fois, Pierre-Olivier Guérin communiqué. Laurent Salerno va réaliser. Mathieu De Gueldre le superviser. Il n'y a plus qu'à y aller.
Cholo
2-0 pour l'équipe de Diego Simeone.
Barça 0.
Lewandowski, l'enchaînement. Oh, le but. Le golazo de Lewandowski. Ce ballon. Oh, la tête de Ferran Torres. L'égalisation pour l'FC Barcelone. Attention, bien mal. Attention, la frappe, elle est touchée. Le troisième pour l'FC Barcelone. Est-ce que le quatrième est là? Ferran Torres s'échappe. Ferran Torres.
Pichichi al rescate.
La remontada des joueurs d'Hansi Flick.
De l'équipe que nunca se rinde.
oui, c'est vrai, vous avez raison, Étienne Moatti. Il n'y avait qu'un match à regarder ce week-end et c'était bien celui-là. On le sentait avant, on en est encore plus convaincu après. Parce que quel scénario! Je rappelle, hein, 2-0, on a entendu là tous les buteurs, Alvarez et Sorlot, tiens, 11 buts chacun. Ça n'a pas suffi. 2-0 à la 70e. Les Colchoneros, ça y est, se sont refait la cerise après cette élimination en Ligue des Champions, se dit-on. C'est parfait, Ligue des Champions, élimination face au Real, hein, bien sûr, je le rappelle pour nos auditeurs. Et puis quoi, 28 minutes plus tard, à la 98e, eh ben, ils ont pris 4 buts. Lewandowski, son 22e de la saison. Ferran Torres, un doublé. Lamine Yamal, on en reparlera, le premier but depuis le 16 novembre. C'est quand même pas de chance pour l'Atlético. Bref, à l'arrivée, victoire 4-2 de Barcelone, qui assoit un peu plus sa position dominante sur la Liga, on va dire ça comme ça.
Oui, mais le Barça aurait dû déjà marquer beaucoup de buts avant d'avoir à faire cette remontada en fin de match contre l'Atlético. Et c'était vraiment un match incroyable, mais c'était une domination du Barça absolument impressionnante. Je crois qu'on ne mesure pas encore très bien l'équipe qui est en train de devenir. On parle beaucoup, beaucoup, évidemment, chez nous, du Paris Saint-Germain, de la transformation que cette équipe a subie. Mais le Barça, c'est impressionnant. C'est un niveau de jeu qui rejoint les tout meilleurs Barça offensivement. C'est-à-dire, c'est un spectacle permanent. Et franchement, c'était une domination mais absolue sur l'Atlético. Offensivement, on voit des choses aujourd'hui au Barça qu'on voit quand même très peu dans le football. Donc, l'opposition, c'est une opposition classique entre l'Atlético et le Barça. Mais là, c'était vraiment le bien, le mal, le bon, le méchant, le doux, le dur. Enfin, c'était vraiment ce qu'on aime voir comme opposition dans le football.
Et c'est jeune en plus ce Barça-là, c'est ça qui interpelle ça... aussi, c'est que c'est parti pour durer.
C'est ça, Flick a reconnecté un peu le Barça avec son image et ses origines de club formateur et de club qui a une identité de jeu qui a inculqué dès l'adolescence des futurs stars. Et on les voit maintenant briller de plus en plus jeunes et avec régularité, même si, vous l'avez dit, Yamal... à retrouver un petit peu des couleurs à cette occasion.
C'est étonnant quand même de voir que ce garçon-là, dont il brille, dont dit le plus grand bien, n'avait pas marqué depuis 5 mois.
Il n'arrête pas de briller, quoi. Et en fait, c'est un petit peu les... Oui, c'est-à-dire qu'une équipe qui attaque tout le temps, elle prend plus de plaisir qu'une équipe qui défend tout le temps. Et je pense que l'Atlético, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à force de passer leur temps à défendre sans relâche et sans arrêt, ça craque un peu. Et on le voit, le premier but qu'ils encaissent, c'est juste après avoir fait le break. C'est le classique relâchement d'une équipe
qui ne se relâche jamais d'habitude.
Qui d'habitude ne se relâche jamais, mais là, ça ressemble quand même à ce qu'on voit dans.
On va revenir sur les Colchoneros, voilà. Et sur leur entraîneur, ce peut-être plafond de verre. Peut-être qu'il est temps de tourner la page, on en parlera. Poursuivons encore un peu sur le Barça, Hervé. C'est vrai qu'elle est emballante à voir jouer cette équipe.
Ah oui, non, mais exactement. Et puis j'aime bien le parallèle avec Paris Saint-Germain, effectivement. C'est qu'on a deux équipes assez incroyables. Hein. C'est qu'il y a du jeu, ça propose du jeu, des attaquants qui sont phénoménaux, faut quand même le dire. Alors Lewandowski, on le connaissait, son niveau. Mais en revanche, Yamal, ce qu'il est capable de faire. Là, il n'a pas marqué pendant 5 mois, oui, en Liga. Il en a marqué d'autres buts. Et puis surtout, il fait des différences phénoménales. C'est quand même assez incroyable ce qu'il est capable de faire. Rafinha a arrivé à un niveau qu'on n'imaginait peut-être pas, hein, quand il est passé à Rennes notamment. C'est un joueur qui avait du talent, on sentait qu'il avait quelque chose dans les pieds, mais là, il a épuré son jeu, il est devenu beaucoup plus clinique aussi. Donc vous avez une équipe qui est capable de proposer quelque chose d'assez incroyable. Et puis, c'est vrai que c'est un peu dans la mouture Barça, c'est ce qu'on aime chez le Barça, c'est-à-dire les grandes équipes qui offrent du jeu. Être capable de marquer 4 buts à l'Atlético Madrid, on peut me dire qu'ils sont un peu rincés, fatigués, ils avaient joué 120 minutes, mais enfin, il faut en être capable. Il faut être capable pour marquer ces 4 buts en une demi-heure. Et comme l'a dit Étienne parfaitement, c'est-à-dire qu'ils auraient pu marquer avant. Début de match, il ne faut pas oublier qu'il tape deux fois les poteaux, par exemple. Il pouvait déjà mener. Donc, c'est vraiment une équipe qui a cette force en elle, cette générosité, et qui impressionne quoi, aujourd'hui.
Vous disiez pendant le générique, je raconte tout, moi, vous le savez, vous rêviez d'une finale de Ligue des Champions. Alors, cette saison, Paris Saint-Germain-Barcelone. Et pourquoi pas? On peut l'imaginer.
Il y a un côté équipe miroir. C'est ça qui est assez incroyable. C'est-à-dire qu'on avait un peu peur, Flick, on ne savait pas ce que ça allait donner en Espagne. On disait que c'est quand même encore une équipe jeune, Barcelone. Est-ce qu'ils allaient mettre tout en place? Alors attention, hein, ils n'ont pas gagné le championnat. Ce qu'on dit, c'est vrai qu'ils dominent aujourd'hui la Liga, ils ont un match en retard, mais ça reste, ça touche. Le Real, il faut toujours se méfier du Real.
Il reste un classico en plus.
Il reste un classico. Donc attention, rien n'est fait. D'autant plus qu'ils ont eu déjà une période en première partie de saison, alors qu'ils avaient été très forts, un peu plus difficile.
C'est l'heure du point classement et de l'info réfée, parce que quitte à parler de lui, autant qu'il nous donne des infos. Barcelone en tête, 60 points. Le Real a exactement le même nombre de points, simplement une différence de but défavorable. Mais Barcelone a donc un match...
Contre Osasuna.
Alors contre Osasuna, je termine le classement si vous le voulez bien, l'Atlético Madrid est maintenant à 4 longueurs, potentiellement à 7 si jamais le Barça gagne contre Osasuna. championnat. Après, il y a l'Athletic Bilbao qui s'accroche un peu, mais en gros, on connaît les quatre équipes qui seront quasiment en Ligue des Champions, puisque Villarreal, cinquième, qui a perdu contre le Real ce week-end, est maintenant complètement décroché et à 12 longueurs de l'Atletico.
En Espagne, on connaît toujours à peu près au départ de la saison.
Il y a toujours une équipe surprise.
Des champions. Voilà. C'est la quatrième.
Là, cette année, ce sera l'Athletic Bilbao. Non, l'info sur le match en retard, c'est que la Liga veut absolument faire jouer ce match le 27 mars, c'est-à-dire jeudi en 8, et le Barça ne veut pas. Et ne
le
veut
match
pas.
Se jouera donc à minuit, donc.
Non, mais non. Pourquoi le Barça ne veut pas? Parce qu'en fait, tous ces Sud-Américains ne seront pas rentrés d'Amérique du Sud. Ils jouent tous mardi soir, donc ils seront rentrés le mercredi soir. Ils n'est pas question. Voilà, ils vont être rincés. Donc le Barça ne veut pas. Voilà.
Et on peut les comprendre.
Toujours intéressant de déjeuner avec le réfi. Il y a deux trois trucs à prendre. Vous devriez essayer.
Mais puis bon appétit.
Oui, c'est vrai. En tout cas, c'est vrai que c'est intéressant de voir. On peut comprendre que le Barça ait pas envie. Ce match-là, il est capital. Vous le gagnez, vous prenez 3 points d'avance sur le Real, vous en prenez 7 sur l'Atlético.
Peut-être que le Barça a moins de pouvoir dans son championnat que le PSG n'en a dans le sien, parce que le Paris Saint-Germain a voulu que soit reporté son match à Nantes entre ces
Nantes
deux.
Nantes avait dit non.
En ce serait deux matchs de quart de finale de Ligue des Champions. Bah, ils l'ont obtenu.
C'était un petit nom quand même du côté nantais. J'avais parlé avec Comboiré qui m'a dit si on joue vendredi. Ce qu'il voulait, lui, c'était jouer le vendredi le match contre Rennes, c'est tout.
Revenons au Barça, invaincu donc en 2025, ça se tient, 18 matchs,
pas mal.
Parti pour être sacré, oui, peut-être, on vient d'en parler, solide, on l'a dit aussi, je vous propose d'écouter l'avis d'Hansi Flick, l'entraîneur.
For the supporters, for the fans, for everyone.
Pour les supporters, pour les fans, pour tout le monde aussi devant la télévision, c'était un match incroyable. Donc à la fin, nous sommes vraiment heureux. Je pense qu'après le deuxième but où nous étions menés, la réaction a été incroyablement bonne. Et en 20 minutes, environ 20 minutes, nous avons marqué 4 buts ici à l'Atlético contre cette équipe. C'est vraiment bien. Je suis content pour l'équipe, mais aussi pour le club et pour nos fans. C'est une grande soirée pour nous.
Oui, on peut comprendre Hansi Flick. Grande soirée pour le Barça, donc que cette victoire chez l'Atlético Madrid 4-2. Revanche, pourquoi pas, en demi-finale, retour de la Coupe. Ce sera le 2 avril au Metropolitano. Et c'est vrai que pour... ça va être l'heure enfin de parler de l'Atlético. Pour l'Atlético, ça sonne un peu comme une occasion de gagner peut-être un titre cette année. Ça serait pas mal.
Hein. Bah moi, on m'explique tous les ans qu'en fait, c'est un nouvel Atlético qu'on est en train de voir, que Simone, il a compris. Il veut aussi quand même un peu faire du jeu. D'ailleurs, il a bâti un effectif, ce qui est la réalité. D'ailleurs, il y a un très gros effectif cette saison à l'Atlético Madrid. Puis finalement, le naturel revient au galop comme à chaque fois.
Oui.
Et quand on voit les matchs qu'il a fait sur les matchs décisifs qui ont été les derniers, voilà, peu de prise de risque, un jeu dans le calcul, alors que finalement, il a du matériel offensif. Il pourrait faire un tout petit peu autrement. Et puis le Barça, défensivement, autant offensivement, ils sont injouables. Défensivement, tu peux faire quelque chose contre le Barça. Il n'a pas essayé.
Ouais, on sent que je trouve que le match de Ligue des Champions a fait beaucoup de mal. D'abord, dans sa préparation n'a pas été bonne avec une défaite contre Retafe, alors que c'était une équipe a priori à la portée d'un Atlético même déjà tourné vers la Ligue des Champions. Et puis ce match retour contre le Real où l'Atlético marque dans la première minute.
28 secondes.
Peut emballer totalement la rencontre devant son public. On sent que le Real est en difficulté. On sent qu'à ce moment-là que l'Atlético... Le naturel revient au galop, il cherche plutôt à avoir le contrôle, à ne pas déséquilibrer trop le match. Et finalement, la rencontre s'enlise dans une bataille de position, alors que l'Atlético avait vraiment, à mon avis, les moyens, sur les premières minutes, de mettre la tête sous l'eau au Real Madrid. Ils ne l'ont pas fait et leur chance est passée, parce que le Real sait aussi, bien que ce soit plutôt la réputation de l'Atlético, sait aussi tenir quand il est... Il s'est plié sans rompre, le Real Madrid. Et là, l'Atlético, malheureusement, depuis cet enchaînement de matchs, il montre qu'il n'arrive plus à faire ce bloc imprenable. Ils ont des failles. Et ces failles leur coûtent très cher contre la meilleure attaque d'Europe en ce moment, qui est celle du Barça.
Une élimination qui a coûté cher, peut-être des joueurs, on va y revenir, qui sont en moins bonne forme. On écoute, je vais me tourner vers vous ensuite, Hervé Penaud.
Mais avec plaisir, j'aime beaucoup
mais
vous tourner vers moi.
Mais d'abord, l'avis de Diego Simeone avant
je sais pas, allez, envoyez.
Nous avons mené 2-0 et nous étions alors en bonne position. Et puis le premier but du Barça est arrivé très vite et j'ai tardé à faire un changement. Je voulais faire entrer Jiménez avant qu'il ne marque. Mais bon, ils ont sorti un ballon du milieu de terrain et ils ont marqué. Le temps de donner mes instructions et le deuxième but barcelonais est arrivé. Et même si Jiménez était entré en jeu, peut-être que ça n'aurait rien changé, peut-être que ça aurait été pire aussi. Ce qui est certain, c'est qu'on a manqué de fraîcheur en fin de match, parce que le banc de Barcelone a aussi de la qualité, avec des joueurs de haut niveau, et l'adversaire devait tenter le tout pour le tout. Ils ont très bien joué, et c'est tout à leur honneur. Et nous n'avons pas su nous montrer solides ni profiter des contres que nous avons eus.
Oui, mais ce n'est pas la première fois. Diego Simeone, tiens, ça m'a étonné, ce sont les Pierre-Olivier Guérin qui travaille sur cette émission aussi, qui m'a apporté cette info.
Et il travaille très bien.
Il travaille très bien, je vous le confirme, tout à fait. Quelle est sa particularité à Diego Simeone?
Il entraîne son fils, non? C'est pas ça.
Je suis sûr que ça, vous devez.
Enfin, c'est l'entraîneur peut-être qui est sur un banc d'Europe, qui est le plus ancien, le nombre d'années. Non, c'est pas ça non plus.
C'est l'entraîneur le mieux payé du monde.
C'est vrai aussi.
Ah, c'est pas mal.
C'est vrai aussi.
C'est pas mal.
C'est l'entraîneur le mieux payé du monde. Comme moi, quoi, ça m'a surpris.
L'ancienneté, ça rapporte.
Devant Pep Guardiola, devant Klopp à l'époque, et puis assez largement, quasiment 3 millions d'euros par mois.
Ouais, ça, c'est un jeu
2,92.
De...
Ah, je vois les
jeu
yeux.
De renégociation.
J'aime beaucoup. Hervé Podoki.
Ah, j'aime beaucoup.
C'est incroyable. Ah, mais Klopp, par exemple, c'était la moitié.
C'est vraiment lui qui symbolise complètement l'Atlético.
Il est là depuis 2011. Ça fait 14 ans.
C'est une longévité absolument incroyable. C'est lui qui personnifie ce club. C'est lui qui fait l'identité, qui en fait l'identité de jeu aujourd'hui. Donc, je ne vais pas dire que c'est normal, mais en tout cas, il y a une forme de logique.
Il a négocié, il ne les vole pas.
Et, c'est peut-être pour ça qu'il reste là-bas, où il n'a pas eu de proposition supérieure. Mais peut-être qu'il peut compliqué. Y avoir aussi une forme, moi, si j'étais supporter de l'Atlético, j'aurais une petite forme quand même de lassitude, parce que les moyens, ils les ont, même si les résultats sont là quand même, parce qu'il y a une grande adversité avec le Real et le Barça. Mais quand même, au bout de la saison, quand vous perdez et que vous n'avez pas éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir, peut-être qu'il y a quand même de la frustration.
Ouais, mais le plaisir naît de la victoire chez eux. Parce qu'il faut bien se rendre compte que, pour moi, Simeone, il m'a fait changer d'avis sur un élément du football. On m'expliquait que les entraîneurs durs, qui rinçaient leurs joueurs, au bout d'un moment, au bout de 3-4 ans, c'est un peu les Kleenex, il faut les jeter, parce que plus personne n'en veut. Mais là, c'est tout le contraire. C'est-à-dire qu'il a réussi chaque fois
évoluer les effectifs.
Oui, mais il a des anciens joueurs, on prenait l'exemple de Griezmann, qui revient chez lui et qui est content d'y être. C'est-à-dire qu'il a quand même créé un lien avec ses joueurs, une sorte de proximité, même dans le jeu, dans l'esprit du jeu, qui fait que finalement, personne ne s'en plaint.
Je pense qu'il est fait pour être un entraîneur antagoniste. C'est-à-dire que l'Atlético, c'est un club antagoniste. C'est le club qui se définit par son opposition au Real Madrid. Et ça va très bien à Simeone, qui a ce côté argentin, éruptif, bouillant. Et ça plaît aussi au public du Metropolitano. Et surtout, ça plaisait au public du Vicente Calderón, qui était un stade un peu chaudron, un peu onky-tonk, entre guillemets, un peu brutal comme ça. Et ça fait très argentin, finalement, dans un championnat européen. Donc, pour ça, il est bien dans ce club-là. Quoi. Je ne le vois pas au Barça ou au Real, par exemple.
Elle vient aussi que depuis 2021, plus rien. Ça fait un peu éternel second. Ça fait Poulidor peu du football. Je rappelle quand même.
Poulidor de Barcelone, Poulidor du Real Madrid. Ouais. C'est-à-dire que ce n'est pas Poulidor de...
Poulidor de Merckx. Poulidor de Merckx, c'est pas mal aussi.
Je ne suis pas d'accord avec Hervé.
Je rappelle juste quand même qu'en 14 ans, c'est deux fois champion d'Espagne 2014-2021. C'est le dernier titre. Une Coupe d'Espagne en 2013, plus une Super Coupe. Deux Ligue Europa, 2012-2018, deux finales, évidemment, de Ligue des Champions, dont on se souvient, 2014 et 2016.
Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Hervé, parce que les moyens aujourd'hui de l'Atlético Madrid, ils sont extrêmement importants. Ils peuvent prendre à peu près qui ils veulent aujourd'hui sur le marché des transferts. Ils ont de quoi faire deux équipes extrêmement compétitives. Et finalement, d'être le troisième club en Espagne, quand vous êtes l'Atlético, c'est la moindre des choses, puisque vous avez aussi une supériorité par rapport à toutes les autres équipes espagnoles, à part le Real et le Barça. Moi, je trouve que quand vous êtes l'Atlético aujourd'hui, qu'est-ce qui vous reste? Quand vous n'avez pas un titre, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste franchement pas grand-chose au bout d'une saison. Alors, on va dire que j'aime pas Simeone, j'aime pas l'Atlético.
Bon, je crois que tu l'aimes pas.
Mais ce jeu-là, franchement, restrictif, je trouve qu'il touche ses limites et que Simeone, il touche ses limites aussi un peu.
Le seul à le penser.
On va élargir. Moi, je pense que tous les entraîneurs trop dogmatiques qui n'ont qu'un plan de jeu, ils touchent leurs limites à un moment ou à un autre. Et on le voit pour Simeone avec son jeu dur, défensif, et on le voit avec des coachs offensifs qui n'ont pas le plan B quand ils jouent un bloc bas. Hein. C'est l'histoire du foot. Et il devrait peut-être, effectivement, hybrider un peu son plan
de
jeu.
Mais c'est difficile pour Simeone de changer complètement sa structure mentale, parce que lui, c'est son ADN, cette manière de jouer.
C'est
demander, je ne sais pas moi, à Carlo Ancelotti de venir un entraîneur à la Pep Guardiola, ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment, vous vous êtes fabriqué comme ça. Donc il faut l'accepter. Soit on ne l'accepte pas, effectivement, je peux comprendre. Hein. On me dit, bon, bah, c'est finalement plus le moment. On a besoin aujourd'hui d'entraîneurs qui fassent du jeu, qui donnent envie de vivre. Barcelone ne pourrait pas avoir Simeone sur le banc. C'est impossible, parce que les supporters, au bout d'un moment, ils exploseraient complètement. Ce n'est pas l'ADN du club. En revanche, l'Atlético, qui est un club un peu particulier quand même, il ne faut pas oublier les grandes années, même Jesus Gil, là, c'était encore... C'est une manière de faire, une manière de voir le foot qui est très différente.
Mais on va devoir enchaîner, mais
après 14 ans, c'est costaud quand même.
Je vous donnerai quand même un mot sur la baisse de forme, on est d'accord avec ça, d'Antoine Griezmann, qui fait une première partie de saison phénoménale. Il marque quand même 14 buts cette saison en tout, 8 ans en Première Ligue, quelques passes décisives. Mais depuis quelques semaines... Il a disparu un peu quand même, il a du mal.
Disparu, c'est sévère quand même, même sur le match face au Barça, je veux dire, c'est lui qui est sur le premier but de l'Atlético, il a toujours cette créativité. Après, c'est quand même un jeu, même si finalement il s'y est bien fait, puisqu'il est aujourd'hui le meilleur buteur de l'Atlético de l'histoire, qui est quand même aussi restrictif pour lui, c'est-à-dire qu'il fait énormément d'efforts. Antoine Griezmann, il les faisait il y a longtemps, il est encore obligé de les faire aujourd'hui à l'âge qu'il a. Donc je pense que c'est compliqué aussi d'exister offensivement quand vous faites autant d'efforts à l'âge qu'il a.
On est tous d'accord là-dessus. On n'a pas envie de dire du mal d'Antoine Griezmann. Non. Je pense que tout le monde l'adore. On rêve tous d'un retour en équipe de France un jour.
Il a, à mon avis, déjà, en partie, la tête ailleurs et ses valises à moitié faites, hein, déjà. Parce que c'est sa dernière saison.
Là, je ne suis pas sûr. Je pense qu'il a encore un an de contrat. Il peut rester encore un an de plus.
Je pense que le club le vendra avant la fin de son contrat.
C'est possible, mais s'il pouvait partir sur un titre, même une coupe.
Oui.
Je pense qu'il ne l'a pas complètement ailleurs. Il l'aura, logiquement, après.
Allez, encore une question pour parler d'Espagne.
Dernière, hein.
Ce sera la dernière, j'espère. Mais d'abord, il y a un petit truc.
Ah
oh, la balle pour Mbappé. Balle de doublé pour Kylian Mbappé. Il ne la manque pas. Cette frappe placée à merveille.
Apareció Kylian, apareció Mbappé, apareció Lalá Kylian, para con un escorzo remate con pierna derecha, parábola imposible para Conde, anotar el segundo del Real Madrid.
Vous venez d'entendre l'homme qui ne respire jamais, c'est un journaliste espagnol, c'est extraordinaire. Apareció Kylian, apareció Mbappé.
Et après, il faisait une scène dans Le Grand Bleu, je crois.
Oui, c'est ça. En apnée totale, Villarreal, Real Madrid, donc victoire du Real 2-1, doublé de Mbappé, j'ai posé la question pendant les titres, 20 buts en Liga. C'est carré à deux réalisations de Lewandowski. Mais on a quand même l'impression, et c'est pas la première fois, je disais, fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous voyez où je veux en venir.
Le Real ou Mbappé ?
Mbappé.
Oui, c'est quand même.
Il a été inexistant contre l'Atlético.
Non, il provoque le pénalty.
Deux fois. Ouais.
Il a été le seul, en effet,
qui
a
existé
sur ce match-là. Après,
En Ligue des Champions.
C'est vrai que c'est un joueur, Mbappé, qui aime quand même avoir un petit peu d'espace. Et quand vous avez une défense très, très rigoureuse comme celle de l'Atlético, il a un petit peu plus de mal. Maintenant, après avoir fait un début de saison catastrophique, il va peut-être encore terminer meilleur buteur de la Liga pour sa première saison. Et en Espagne, aujourd'hui...
Mais on l'attend aussi en Ligue des Champions comme on va l'attendre en équipe de France pour son retour.
Comme tous les grands champions. Voilà, exactement. Il a encore l'opportunité de pouvoir faire. Et donc, il est encore en course avec les Barcelonais pour le ballon d'or.
Pour moi, il ne faut pas l'enterrer. Je suis d'accord avec vos réserves.
Je ne l'enterre pas. Je mets des réserves sur les matchs qui comptent. Sur les matchs qui comptent pour le moment, on ne l'a pas vu en Ligue des Champions.
Mais ça peut venir.
Voilà,
ça peut venir.
Je ne dis pas.
Ce match du championnat comptait aussi beaucoup parce que si le Real ne gagne pas ce match-là, si Mbappé ne met pas ses deux buts, ils sont déjà largués.
C'est vrai.
Allez, la boucle est bouclée pour les championnats. C'est l'heure de la pause musicale. Et oui, maintenant, on a une pause musicale.
Hervé va chanter ?
Attention, non. On n'en est pas là. Les Congolais de Tchégué, Sing My Song, chanté en Lingala, comme son titre ne l'indique pas. La chanteuse s'appelle Fatih Si Savané. On ne sait pas si elle est de la même famille que Mohamed Si Savané, notre correspondant en Côte d'Ivoire, aux percussions Nicolas Dacunha.
Bota,
Savadé pour le chant, bah, Nicolas Takounia pour les percussions, ah oui, il chantait Sing My Song, c'est le groupe Tchégué. Et pour rappel, donc, il chantait en Lingala. C'est bien foutu comme émission, c'est construit.
Ouais.
C'est Laurent Salerno, c'est musique africaine pour parler de sélections africaines dans les secondes qui viennent. C'est réfléchi, il y a du moyen. Et du coup, il est tellement content de son choix qu'on a eu du Tchégué.
Ah non, top niveau. Hein.
Alors non, là, mais c'est bien.
Bravo.
Ah oui, non, mais on a mis
bravo
des...
Ce groupe,
ah ouais, on est passé là. 50 matchs en Afrique, Mazette, dans les jours qui viennent. On rappelle les formalités. Tiens, je vais me tourner vers Étienne Moati. 9 qualifiés et demi, c'est ça? J'ai bon en Afrique?
Vous avez toujours bon, surtout en Afrique.
C'est-à-dire, alors donc...
C'est-à-dire les 9 vainqueurs de poule.
Et alors ce demi-là, expliquons ce demi.
C'est les 4 meilleurs deuxièmes.
Les 4 meilleurs deuxièmes qui vont s'affronter dans une sorte de pool, ouais, mini-pool. Et le vainqueur de celle-ci jouera un barrage intercontinental, voilà, contre une équipe océanienne ou sud-américaine, je crois.
Oui, absolument.
Voilà, donc ça.
Donc on verra.
C'est un long marathon.
Vaut mieux terminer les premiers pour éviter la deuxième, ouais, place.
Et c'est pour ça que ça rend.
On est au milieu d'un long marathon.
Ah ouais. En fait. Mais j'ai encore une question, parce qu'on entend tellement nos auditeurs africains être tellement contents qu'il y ait 9 équipes, voire 10. Mais est-ce que, dans le fond, ça va changer grand-chose, puisque tous les continents ont plus d'équipes, et puis que ça va écrémer au premier tour terriblement?
Ça rééquilibre en faveur de l'Afrique, puisque l'Europe avait, je crois, 14 équipes.
Elle en avait 13. Hein.
Oui, 13, et ça va passer à quoi, 15?
À 16, je crois.
À 16. C'est quand même plus en faveur de l'Afrique.
Bien sûr. Vous voyez
ce que je veux dire.
Là
où je veux en venir, c'est dire, nos amis africains, ils se disent, on va être 10, donc on va aller forcément en quart, en demi.
C'est déjà une représentation qui est beaucoup plus importante, parce qu'en pourcentage aujourd'hui, c'est plus favorable à l'Afrique que ça ne l'était, donc c'est déjà une bonne chose. Et si vous avez plus d'équipes au départ, je ne vais pas faire des mathématiques de base et
du
football
pour les
enfants, mais évidemment, vous avez plus de chances d'être à l'arrivée quand même, à mon avis.
Ça permet de concerner plus de gens. Parce que quand vous avez 9 équipes, c'est-à-dire 9 pays, ça
ouvre des perspectives à des pays qui, jusqu'à
l'été 2026,
n'étaient pas invités.
Le premier tour se passe comment finalement? Ça a été arrêté définitivement?
Non.
Pas encore, hein.
Non.
On est bien d'accord. Parce que ça peut écrémer très très vite dès le premier tour. On peut se retrouver, quel que soit le continent, hein, mais je veux dire, il y a différentes formules.
J'ai l'impression que vous ne croyez pas du tout en l'Afrique, ni dans les sélections africaines.
Pas du tout, certainement pas. Je tempère simplement le nombre. Le nombre ne fait pas que... La preuve, les Sud-Américains ne sont pas forcément très nombreux, mais c'est toujours les mêmes, et ils en ont gagné quelques-unes.
L'Afrique
sort de sa meilleure Coupe du Monde.
Vous êtes mieux représenté, vous avez de l'expérience supplémentaire sur les compétitions suivante, enfin, c'est quand même un cercle plutôt vertueux, de mon point de vue.
Et puis ça aide aussi les fédérations à convaincre des joueurs binationaux qui hésitent de venir, puisque bien quand sûr. Vous avez 9 ou 10 places par continent, vous êtes, mettons, sénégalais ou marocain, vous hésitez moins à aller porter les couleurs du pays d'origine qu'avant, quand il n'y avait que 5 places.
La possibilité de jouer une Coupe du Monde. Encore une fois, c'est quoi les scénarios pour l'instant? Le scénario n'est pas arrêté, mais on ne sait pas comment va se dérouler le premier tour. À un an et demi de la compète, c'est pas encore défini.
Il y a le problème de ces matchs sur le continent sud-américain qui ont été ajoutés pour le centenaire.
Non, mais ça, c'est pour 2030. Moi, je parle de 2026.
Ah, 2026.
C'est un scénario qui sera finalement assez classique. Je pense
pas qu'il y a d'interrogation
particulière.
De phase de poule à trois équipes où on éliminerait tout de suite.
Oui, mais ça changera tout. Ça change pas grand chose. Il y aura une poule et puis avec des équipes. Parce que il y a pas eu d'idée de faire des éliminatoires.
Il n'y a pas deux phases de poule.
Il y a pas deux phases de poule. Non, il y aurait pas des pré-éliminatoires. Les équipes les moins bien classées.
On a entendu tout et son contraire. Et on est à un an et demi de la compète. On ne sait pas encore.
La dernière rumeur. Donc au dernier conseil de la FIFA, donc pour la Coupe du Monde 2030, c'est d'élargir encore le nombre de participants et d'en avoir davantage.
64, paraît-il.
Voilà. Bon, ça n'a été qu'une idée qui a été lancée comme ça, mais il faut quand même se méfier avec la FIFA.
Pour l'instant, on qualifie une équipe sur quatre ou presque, on pourrait en qualifier une sur trois. Bah, pourquoi faire des qualifs ? Autant qualifier tout le monde. On ferait une coupe à 200 et puis voilà.
Et ça durerait toute l'année et l'année passerait à 800 jours le 365 grâce à la FIFA.
Avec Gianni. Non,
c'est ça.
Il faut tout est possible.
À tout. En tout cas, on est ravis, évidemment, monsieur Moati sur RFI, d'avoir autant de sélections africaines. Ah ouais. Ça donne des qualifs passionnantes, ça va être le cas pour les 5e et 6e journées qui se profilent. Et puis après, on leur souhaite évidemment le meilleur, au moins aussi bien que le Maroc lors de la dernière, puisque le plafond de verre a enfin été brisé avec une place dans le dernier carré. Il y a trois matchs demain. Bon, Libéria-Tunisie, on n'a pas besoin de s'étendre trop, c'est pas décisif. Un RCA-Madagascar, il est amusant, pourquoi
Parce qu'il y a deux sélectionneurs en RCA, oui. C'est ça.
Bah oui, on rappelle Patrick.
Non, on rappelle que
il y en a qu'un quand même.
L'État a nommé Rigobert Song sélectionneur, puisque c'était un intérimaire, et Eloge Nzayamissi qui occupait le poste depuis le départ de Raoul Savoie. Et la fédération était vent debout contre cette nomination. Et Rigobert Song, qui a signé son contrat avec retard et qui n'a pas voulu trop mettre les pieds dans le plat.
Oui, il ne sera pas sur le banc pour ces deux matchs-là.
Il n'y a qu'un seul sélectionneur. Sachant quand même qu'Eloge Nzayamissi est un peu l'équivalent centrafricain de Rigobert Song, ce qui est l'ancien capitaine de l'équipe nationale, joueur emblématique, respecté de tous. Donc. Ouais, il arrive un peu, il marche un peu sur des œufs là, Rigobert.
Et en face, il y a Madagascar avec son nouvel entraîneur, son nouveau sélectionneur qu'on connaît bien, Corentin Martins. Je vous propose de l'écouter.
C'est important quand on fait une sélection de s'appuyer sur des joueurs qui ont un peu d'expérience du haut niveau, un peu d'expérience des matchs internationaux. J'ai fait appel aux joueurs d'abord qui avaient l'habitude de jouer en sélection auparavant. Je vais avoir l'équipe au complet la veille du match. Donc j'aurai la difficulté de préparer un match important avec un seul entraînement. Je ne vais pas transformer l'équipe en une seule séance d'entraînement. Je vais m'appuyer sur ce que les joueurs faisaient et leur donner deux, trois idées de jeu. Je vais d'abord me concentrer sur notre équipe, sur nos joueurs, pour qu'ils soient au maximum sur le terrain pour les deux matchs contre Centrafrique et contre Ghana.
Merci pour cet hommage au groupe téléphone. Hein. Parler dans l'hygiaphone. On avait l'impression un petit peu de ça du côté de Corentin Martins. Madagascar, pour tout vous dire, est troisième du groupe I, qui est dominé par les Comores pour le moment.
Nombre de points que le Ghana.
Et le match va se jouer sur terrain neutre.
Hein. Exactement. Donc, et la République centrafricaine est cinquième dans ce groupe I. Le match que l'on attend, c'est bien sûr Comores-Mali. Ça sera jeudi à Berkane, au Maroc, le club qui vient d'être sacré pour la première fois champion du Maroc, la Renaissance Berkane, le club du bon président Fouzi Legja.
Club de Issoufou Dayo, le défenseur burkinabé.
Exactement, qui vient d'être champion sacré donc au Maroc et qui, le stade accueillera donc ce Comores-Mali. Les Maliens ne sont que quatrième, on rappelle, seul le premier, voire les quatre meilleurs deuxièmes, mais le premier est qualifié. Donc les Maliens de Tom Saintfit ne doivent pas niaiser, pour le coup, c'est le cas de le dire. Ouais, ils ont quatre points de retard sur les Comores. Si les Comoriens les battaient, ça ferait
très compromis.
À quatre journées de la fin, ça ferait beaucoup.
D'autant plus que le Ghana, autant ils sont complètement plantés dans les éliminatoires Coupe du Monde, Cannes, excusez-moi, autant là, sur les éliminatoires Coupe du Monde, ils sont présents dans les temps. Donc... il faudrait pas pour les Maliens chuter. Maintenant, les Comores sont vraiment sur une dynamique assez incroyable. Depuis qu'ils ont Stéphano Cousin, il a fait un boulot assez phénoménal avec cette jeune équipe, puisqu'il faut se souvenir que quand il a pris l'équipe au tout début, il faut bien imaginer...
Il y a eu un boycott.
Il y avait un boycott des cadres. Donc, il n'y avait personne. Donc, à un moment, ils ne savaient même pas comment ils allaient jouer dans le Cap Vert. Ils ont fait jouer des U19, qui ont récupéré quelques mecs qui jouaient en National 1, en National 2, en Régional, etc. Ils ont gagné ce match contre le Cap Vert. Et c'est créé une sorte de dynamique. Et en appelant quelques jeunes joueurs français qui avaient été dans les sélections françaises de jeunes en U17, U16, etc. Et il a créé une espèce d'esprit collectif. Et cette équipe est assez impressionnante.
Donc, le match contre le Mali... Il y a eu un bon renouvellement des cadres, puisque, par exemple, El Fardou, Ben Mohamed, lui, ne joue plus, mais il y y a Mizian Maolida qui a été naturel, enfin qui a choisi de jouer pour le pays de ses ancêtres, les Comores, et qui s'avère très performant, même s'il joue en Arabie Saoudite, je crois.
Non, il s'est relancé, lui, il s'est relancé.
Voilà, donc ouais, il y a une bonne, comme on dit, une bonne mayonnaise qui a pris sous la direction de Stefano Cousine, et ils ont terminé quand même leur groupe d'éliminatoire CAN devant la Tunisie, ce qui est pas
tout à fait en gagnant en Tunisie.
En gagnant
en Tunisie,
ce qui est pas rien,
ce qui est quand même rarissime pour une équipe des Comores. Et ils jouent, il faut savoir qu'ils jouent pas chez eux, puisqu'ils jouent au Maroc.
Leur stade est suspendu. Ouais,
on va essayer de peigner groupe par groupe, mais je reste encore sur les trois matchs de demain. On l'a dit, Libéria-Tunisie, Centrafrique-Madagascar, on vient d'en parler.
Pour le Ghana, André Ayew n'est pas sélectionné. Jordan Ayew est sélectionné.
Il est même capitaine, Jordan, me semble-t-il, maintenant. Swaziland-Cameroun, c'est le troisième match de demain.
Eswatini, soyez à la
C'est vrai. C'est vrai qu'on l'a vu écrit avec Pierre-Olivier Carin, je ne l'ai pas changé. Il y a encore des dépêches et des sites qui indiquent Swaziland. Bien sûr, c'est Eswatini.
Ça joue en Afrique du Sud.
Eswatini-Cameroun, oui, c'est logique en même temps. Le Cameroun est en tête du groupe. Le Cameroun,
un point devant la Libye.
Le Cameroun, où on ne sait pas trop où on en est de la guerre entre Eto'o et Brice, mais il semblerait que l'adjoint de Marc Brice ne soit toujours pas sur la feuille.
Joachim Mounounga, l'ancien joueur de Malines, qui n'est pas sur la feuille.
Mais il n'est jamais sur la feuille. Et il sera pas demain sur la feuille.
Non,
à moins d'une surprise absolument incroyable, il ne sera pas sur la feuille demain, comme Alioune Boucard ne sera pas sur la feuille. Ils regarderont le match en tribune. Alors c'est pour ça que Marc Brice a poussé un petit coup de gueule dans les fameuses réunions entre fédération, ministère, en disant j'aimerais avoir mon adjoint quand même avec moi. Ça fait 7 ans que je bosse avec lui. C'est quand même pas normal qu'il soit pas. Je suis quand même le seul sélectionneur à pas avoir mon adjoint à côté de moi. Mais il ne le sait pas. Il faut qu'il sache qu'il ne le sera pas. Et celui-là, il faudrait qu'il fasse surtout attention à la suite pour lui, parce qu'il s'est rapproché effectivement du ministre. Mais il ne faut pas oublier qu'en fin d'année, vous avez des élections au Cameroun, en octobre, présidentielles. Et si ce n'est plus le même ministre.
Vous changeriez de sélectionneur à 2 mois de la CAN.
Si c'est plus le même ministre et qu'il n'a pas cette tendance à vouloir le pousser, oui, effectivement, il y aura Marc Brice. Il faut bien qu'il comprenne les réalités du Cameroun. Parce que le problème de Marc Brice, il ne comprend pas tout à fait l'univers dans lequel il est.
En revanche, ce qui est étonnant de la part de Marc Brice, on pourrait penser qu'il chercherait à rester au-dessus de la mêlée et pas à se mêler des luttes intercamerounaises. Au contraire, il y va à fond. Lors du tirage au sort, il a dit j'ai pas peur de la CAN, j'ai pas peur des taux, je vais pas avoir peur du Sénégal. Là, il dit les adjoints camerounais, en gros, qu'on m'a collés sont des incompétents.
Non, il a pas dit ils sont moins compétents. Ils sont moins compétents.
Je traduis.
Oui, c'est une traduction. Pour
être précis au tirage au sort, c'était pas du Sénégal, mais de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui lui pose cette question. Et où il glisse, on parle de la Côte d'Ivoire, et dans sa réponse, il glisse un j'ai pas peur de la Côte d'Ivoire, j'ai pas peur des Eto'o. On s'est regardé, je me suis dit, qu'est-ce qu'il a besoin de cette petite pique gratos
c'est pour vous faire plaisir.
C'est
une bonne déclaration. C'est incompréhensible au moment où on aurait un peu besoin de tempérer les choses. Et c'est ça qui crée un univers.
C'est remettre 100 balles dans la Chine.
On dirait qu'il prend goût aux joutes politiques alors qu'il est là pour juste gérer une
sélection. Il va jouer un match important parce que là, on parle de Eswatini. Bon, Eswatini, c'est dernier, c'est 4 matchs, 4 défaites. En revanche, mardi 25 à Yaoundé, c'est Cameroun Libye,
match à 6 points.
La Libye d'Aliou Cissé,
il n'y a qu'un point aujourd'hui après 4 jours, il n'y a qu'un point d'écart
aujourd'hui, on ne sait pas d'ici là.
Oui. Mais ça peut potentiellement être un match qu'on dit à 6 points et donc intéressant. Maintenant, le Cameroun, pour moi, a un meilleur effectif et à domicile est largement favori, même contre une Libye revigorée, peut-être par l'arrivée d'Aliou Cissé.
Oui. Sur le papier,
donc
quand même, le Cameroun,
donne, quand
ils
même
sont dans un groupe
suffisant. Voilà.
Autant on parlait tout à l'heure d'un groupe où il y avait beaucoup de potentialités, là, c'est quand même un groupe plus faible et qui est vraiment dans les cordes du Cameroun.
Il y a des joueurs qui ont émergé depuis la CAN, comme Baléba. Je trouve que l'équipe s'est bien renouvelée et que Brice fait plutôt des choix cohérents en termes de composition.
Il y a une stabilité. On verra d'ici là les premiers choix de Aliou Cissé qui va donc disputer ses deux premiers matchs avec la Libye.
Il faut savoir que Al-Mousrati,
va-t-il faire
le joueur libyen le plus capé, le plus coté, c'est Al-Mousrati, le milieu de terrain de Monaco. Il n'est pas dans la liste. Enfin, il n'a pas voulu revenir en sélection pour l'instant.
On a évoqué les trois matchs de demain. On vous l'a dit, il y en aura tous les jours. On aura l'occasion ici, dans cette émission, bien sûr, chaque veille de ces matchs-là, de les évoquer. Mais un petit point rapide, groupe par groupe. Le groupe A, on ne va pas s'éterniser. C'est l'Égypte qui domine déjà assez largement. Guinée-Bissau, Burkina Faso, Sierra Leone sont déjà à 4 ou 5 points. Il ne devrait pas y avoir de surprise.
Ça sent la deuxième place pour les autres.
Ouais. nos amis burkinabés, ça ne nous déplairait pas qu'ils soient ces deuxièmes, mais pour l'instant, ce n'est pas fait. Le groupe B est bien plus intéressant parce que samedi, il va y avoir un Soudan-Sénégal. Les Soudanais sont en tête, 2 points devant les Sénégalais. Et donc, bah, on
en
peut estimer.
Hein,
et troisième derrière, c'est la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur un match à trois. Hein. Le Togo, le Soudan du Sud, la Mauritanie sont plus ou moins largué, en tout cas, déjà
attention,
à quelques
points.
Mais
c'est des équipes contre qui vous pouvez perdre des points, par exemple, le Togo.
Oui,
c'est
mais le match à 3, c'est Soudan-Sénégal, RD Congo.
Oui,
bien sûr. Et ce match à 3, avec un Soudan-Sénégal samedi, on aura l'occasion d'en reparler. Éric Benbrut en parlera sans doute vendredi dans le Café des Sports.
Du côté surtout du Sénégal, où Papthiou a ouvert très grand le groupe en convoquant 6 nouveaux joueurs pour cette rencontre.
Beaucoup de blessures.
Il y a beaucoup de blessures, donc ça l'a forcé peut-être un petit peu à ouvrir, et je trouve que c'est intéressant. Il y a notamment Hassan Diao qui est arrivé, il y a Yevan Diouf qui est arrivé au poste de gardien, donc c'est une... Je le dis pour vous, comme il est de Reims. Hein.
Oui, je sais. Je sais parce qu'on a eu un reportage là-dessus il y a quelques jours.
Et donc, c'est intéressant. Hassan Diao est très suivi puisqu'il aurait pu... Il a gagné l'Euro des moins de 19 ans avec l'Espagne. Il aurait pu continuer. Il a choisi le Sénégal. Bon, peut-être un choix...
Et qui fait un très bon début d'arrivée
à
Côme. Hein,
déjà 5 ou 6 buts en Serie A, donc intéressant à suivre.
Le groupe C, là aussi, il va y avoir un match intéressant. Vous savez qui est en tête du groupe C? Tiens, je me tourne vers Étienne Moati, parce que l'Afrique, c'est un peu moins... C'est surprenant, je vous le dis tout de suite. C'est un pays dont on parle beaucoup, d'ailleurs, ces derniers temps, mais
j'imagine,
pour d'autres raisons.
Et qui commence par un R, non?
Ouais, RW, ouais. Non, c'est ça.
Ouais. Le Rwanda. Oui, visite Rwanda. Peut-être pas tout à fait le moment.
Là, c'est un groupe très serré, en fait.
Rwanda, Afrique du Sud, Bénin, Lesotho, Nigeria, Zimbabwe.
4 matchs
seulement. Et le Nigeria, effectivement, derrière Shell qui va débarquer, n'était pas en place.
Là, c'est mission commando. Matchs. S'il prend pas au moins 4 points, il peut
3
déjà
nuls,
dire au revoir.
Une défaite pour le moment. Et donc, Rwanda-Nigeria, vendredi, les amis. Celui-là vaut très très cher. Déjà pour Eric Shell, hein, d'ailleurs.
Ah, très 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 cher. Alors, déjà, c'était quand même une surprise, il faut le dire. On aime beaucoup Eric Shell, mais enfin, de le retrouver sur le banc du Nigeria, c'est quand même été la surprise de l'année. Et il sait aussi qu'il n'a pas le droit à l'erreur. Il faut qu'il gagne quasiment tous ses matchs maintenant, parce qu'ils ont trop de retard.
Rwanda, Afrique du Sud et Bénin.
Surtout que
ont le même nombre de points, 7 chacun. Le Nigeria est déjà à 4 longueurs. Le Lesotho est devant le Nigeria, c'est une dinguerie.
Non, ça va être compliqué, surtout qu'ils devront jouer en Afrique du Sud, parce que le fait qu'ils aient joué déjà l'Afrique du Sud à domicile, ça va être costaud, parce que les Africains du Sud ont retrouvé vraiment un bon rythme sous la mandature de Hugo Bros, qui lui avait gagné la CAN avec le Cameroun, et qui a trouvé quelque chose. Ouais. Ah oui, il sait faire, et on sent qu'il y a un collectif qui s'est dégagé, collectif bien installé autour du Mamelodi Sundowns, mais il n'empêche que là, en ce moment, ils sont vraiment costauds. On se pose des questions sur le Nigeria, mais il reste que quand vous voyez l'effectif du Nigeria sur le papier, c'est incroyable. Non, parce qu'on parle souvent des attaquants, mais défensivement, les Aina, par exemple, avec Nottingham Forest, il fait une saison phénoménale, vous avez des joueurs partout.
Le problème du Nigeria, c'est que Pesero a trouvé la bonne carburation pendant la CAN, mais tous les matchs d'avant qu'il dirigeait déjà en éliminatoire Coupe du Monde, il était encore en train de tâtonner, de chercher.
Bah, ils ont fait 2 nuls dans une défaite.
C'est ce qui leur coûte des points, en fait. 3 points en 4 matchs, c'est indigne d'une équipe comme le Nigeria.
Le groupe D, on en a parlé, Cameroun, Libye, Cap-Vert, on l'a évoqué. Le groupe E, on va passer rapidement, c'est le groupe du Maroc qui compte 9 points sur 9. Derrière, il y a le Niger, la Tanzanie, la Zambie, puisque Congo-Brazzaville est suspendu depuis le 5 février. Bing. Et l'Érythrée ne participe pas. C'est plus pratique de se qualifier quand on est plus de 4.
Le Maroc, c'est un train qui arrive à l'heure. Il n'y a pas de souci.
C'est ça, on a de l'influence. Voilà, on est dans le bon groupe.
Et c'est vrai que ça, pour ça, ils ont la
Président Legja, si vous nous écoutez, nous oubliez pas, si
ça,
vous voulez passer, c'est le moment. Le groupe F, c'est celui de la Côte d'Ivoire. Et là, il y a match. Côte d'Ivoire, Gabon et Burundi. Il y a 3 points entre ces 3 équipes. Côte d'Ivoire, Gabon, Burundi
surtout
peut-être.
Surtout qu'il y aura un Gabon-Côte d'Ivoire. Pas cette fois-ci, pas durant cette
fois-ci.
Le Gabon, lors de ces 2 journées, doit se méfier du Kenya.
Mais le Gabon, ils nous ont jamais prouvé qu'on pouvait avoir confiance en eux. Parce qu'autant la Côte d'Ivoire, on sait à peu près ce qu'elle est capable de faire.
Attention quand même, Hervé, je suis d'accord sur le Gabon, mais la Côte d'Ivoire, il y a eu quand même des piqûres de rappel, des défaites contre la Sierra Leone, contre la Zambie, là, en éliminatoire CAN.
C'est pour ça qu'il a rappelé les anciens. C'est pour ça que Koulibaly, notamment, a été rappelé.
Ouais, c'est vrai.
Pas parce qu'il jouait de Game Forest,
il joue
très peu, mais parce que c'était quelqu'un qui était vraiment un cadre de groupe et de la victoire lors de la CAN. Et c'est pour ça qu'Emers Faye a dit, là, je vais essayer de ramener des joueurs un peu d'expérience pour pouvoir gérer tout ça.
Pour pas qu'on perde les pédales.
On avance pour avoir quand même 2 minutes pour évoquer l'âme Sud, pas plus, je vous le dis tout de suite, mais on le savait à l'avance. Il y a le groupe G, l'Algérie. Alors l'Algérie, bien sûr, formalité, bah pas du tout. L'Algérie est certes en tête avec 2 points.
L'Algérie a perdu contre la Guinée un match.
Le Mozambique est à hauteur et le Botswana n'est qu'à 3 points. Et les deux matchs à venir de l'Algérie, c'est Botswana-Algérie vendredi et Algérie-Mozambique mardi prochain. Mais les FedEx seront fixés normalement après 2 journées.
Non, mais Petkovic a commencé à trouver quelque chose autour de son équipe. C'est plutôt intéressant. Il a eu des résultats. Alors, il y a pas mal d'absences, dont Bennacer notamment. Kouiri est plutôt en forme en ce moment avec l'Olympique de Marseille. Maintenant, eux, c'est défensivement qui ne sont pas au top. Il va falloir trouver quelque chose.
Il y a des absents en plus. Il y a Tougaï qui est absent, donc il va devoir recomposer sa défense.
Donc, il va falloir rechanger un petit peu tout ça. Bon, Ben Sebaïni est de retour.
Ça me paraît jouable pour l'Algérie. Ils ont fait des bons matchs à l'extérieur en éliminatoire CAN, notamment au Libéria. Donc, ça doit leur servir pour aller au Botswana.
Le groupe H, Tunisie, Namibie, Libéria. Bon, la Tunisie est pas mal partie. La Namibie est deuxième à 2 points. Le Libéria à 3. On va pas s'attarder non plus. La Guinée équatoriale est complètement la ramasse. Ça marche en canne. Ça marche pas pour la Coupe du Monde. Ouais. Et le groupe I, on en a parlé avec Comores, Ghana, Madagascar et Mali. Mali mal embarqué.
Enfin, on va se régaler.
Allez, on va en reparler demain, après-demain, et puis vendredi, et puis samedi, et puis dimanche, jusqu'à mardi sur RFI, bien sûr. On va quand même dire 2 mots de la zone âme sud.
The 40-year-old Brad Gazan continuing to turn back. The clock is given away. Messi in. Messi the clip. Messi scores. Level in Atlanta.
And Messi. Et pourquoi on n'en dira que 2 mots? Bah parce que je vais me tourner vers Étienne Moati, parce que c'est lui qui l'a dit tout à l'heure, mais on était tous d'accord, parce que ça n'a pas un grand intérêt, les éliminatoires dans la zone sud. On rappelle qu'ils sont 10 à partir.
Je l'ai dit avec un tout petit peu plus de subtilité que ça.
Ouais,
parce que Étienne est légèrement plus
C'est maintenant. Assumez, monsieur Moati.
Non, mais c'est vrai que ce qu'on pouvait attendre de ces matchs-là, c'était le retour de Neymar en sélection, parce que Neymar, il est beaucoup moqué ici en Europe pour ses blessures, etc. Mais il est vraiment toujours attendu comme le Messi, et c'est pas un jeu de mots là-bas. Franchement, au Brésil, c'est incroyable. Ils croient que sans Neymar, ils ne peuvent rien faire et qu'ils pourraient être de nouveau champion du monde. Il faut qu'il y ait le retour de Neymar. Donc, on l'attendait. Il n'est pas là. Et comme en plus Messi n'est pas là.
Comme Messi, ça n'intéresse pas de jouer sans Neymar face au Brésil.
Il est invité à l'anniversaire de la sœur, peut-être, de Neymar.
On rappelle, 10 sur la ligne de départ. Ils seront 6, voire 7 qualifiés. Le classement est assez clair. On va dire que la 7e place va se jouer entre la Bolivie, le Venezuela et le Chili, puisque pour toutes les autres, ça semble assez bien parti. L'Argentine survole l'Argentine quand même. Bon, c'est le match intéressant de vendredi, 23h30, temps universel, Uruguay-Argentine. Voilà, le deuxième qui reçoit le premier.
Un match de poète. Faut pas oublier les protèges timides.
Et puis, il y aura Brésil-Colombie juste avant. Et puis donc, mercredi, 0h TU. Ça se prend un Argentine-Brésil quand même. Même sans Messi. Alors, on rappelle que Messi a marqué dimanche la reprise de la MLS. Mais il s'est blessé à un muscle. Et donc, il a déclaré forfait pour cette rencontre.
Oui, évidemment, ça se regarde. Mais enfin, ça nous déçoit aussi assez régulièrement quand même des Argentines-Brésil en qualificatif de Coupe du Monde, etc. Donc, franchement, on peut aussi faire l'impasse. C'est possible.
C'est pas assez
quand il n'y a pas les retrouvailles Messi-Neymar.
Non, ce qu'il faut surtout pas, c'est faire l'impasse sur les matchs africains.
Non, voilà. Surtout pas, quel que soit le média, mais les résultats et les analyses, c'est ici que vous les aurez assurément dans Radio Foot et puis bien sûr dans tous les journaux des sports. Et on n'oublie pas la page internet rfi.fr. On se retrouve demain, les amis. Merci encore, monsieur Salerno, monsieur De Gueldre.